Soit bonjour tout le monde, les élections sont presque là, la nervosité des candidats augmente à toute vitesse. Alors une question ce matin, que faut-il faire pour gagner les élections? Que faut-il faire pour gagner les élections? Attention, vous allez le voir, la réponse à cette question n'est pas du tout intuitive. Première possibilité, pour gagner les élections, il faut le meilleur programme. Un programme élaboré par les meilleurs spécialistes qui ont trouvé les meilleures solutions aux problèmes qui secouent notre époque. Réforme fiscale, tax shift, niche fiscale, voiture de société, coût du travail, sécurité, soins de santé, pension, mix énergétique, Green Deal, il faut une réponse claire et précise à tout ça. Mais non, ce n'est évidemment pas un programme qui vous fera gagner les élections. Seconde possibilité, pour gagner les élections, il faut les meilleurs candidats, des candidats qui s'expriment avec facilité sur les dossiers tout en hochant la tête d'un air consterné lorsque ce sont les autres qui parlent dans les débats, des candidats qui représentent un milieu socio-culturel cible où des voix sont disponibles, riches, pauvres, ouvriers, patrons, chrétiens, musulmans, wallons, bruxellois, mais non, ce ne sont pas les candidats qui vous feront gagner les élections. Troisième possibilité, il faut de l'argent. De l'argent pour s'acheter des publicités sur les réseaux sociaux, organiser des meetings, des soirées, louer des bureaux, faire des permanences, imprimer des affiches et fabriquer des petits goodies comme des bics, des mugs ou des casquettes. Mais non, l'argent c'est important, mais ça ne suffit pas. Quatrième possibilité, il faut un bon bilan afin de prouver qu'on a fait bon usage du pouvoir durant la législature, que les errements, les erreurs et les fautes sont du fait des autres, que si blanc est aujourd'hui plus à la mode que noir, il faut être capable de dire blanc même si on a toujours défendu noir. Mais non, tout le monde se fiche bien des bilans. Oh, c'est bon Thomas, allez-y, dites-le nous, qu'est-ce qui compte vraiment pour gagner les élections? Calmez-vous François, j'y viens. Une élection, les amis, c'est une guerre. Et pour gagner une guerre, comme pour gagner les élections, ce qu'il faut, c'est une stratégie. Et nos partis le savent, les uns et les autres font usage des grands classiques de la stratégie militaire qui ont fait leur preuve à travers l'histoire. J'ai tout analysé pendant la semaine. Vous allez voir, je n'invente rien. Et là, c'est la seconde étape de ce biais. Quelles sont les stratégies militaires des différents partis? D'abord, le MR. Le MR utilise la stratégie du shock and awe que l'on traduit par choc et stupeur. Exemple, l'invasion de l'Irak par les Américains en 2003. C'est une stratégie qui vise à désorganiser et à démoraliser l'ennemi par une démonstration spectaculaire de puissance et des attaques permanente pour atteindre une victoire rapide. Le MR, faire semblant d'avoir été dans l'opposition alors qu'ils sont au pouvoir depuis 1000 ans, attirer des vedettes pour créer la surprise sans forcément les laisser parler, couper la parole aux adversaires et ricaner lorsqu'ils parlent, être omniprésent partout, tout le temps, on est en plein dans le choc et la stupeur. Le PS. Le PS, de son côté, utilise la stratégie de l'équilibre de la terreur, qui se base, comme vous le savez, sur le principe de l'assurance de destruction mutuelle. Exemple, la guerre froide entre les deux superpuissances durant la seconde moitié du XXe siècle. Le PS est la superpuissance de la politique belge avec la NVA. Réfléchir sans le PS, c'est courir à sa propre destruction. Jouer contre lui, c'est jouer contre soi-même. C'est absolument terrifiant. Les gens sont terrifiés. Nous avons tous peur du PS. C'est l'équilibre de la terreur. Le PTB. Le PTB connaît évidemment ses classiques communistes et applique depuis longtemps la stratégie militaire de la guérilla. Exemple, Cuba dans les années 50. Avancer rapidement, infliger des dommages, se retirer, affaiblir l'ennemi à l'usure. Au PTB, on sait comme le général Diap de l'armée populaire vietnamienne que lorsque l'ennemi se concentre, il perd du terrain et lorsqu'il se disperse, il perd de sa force. Arriver dans le débat, dégoupiller d'idées simples, la jeter au milieu pour faire un maximum de dégâts et puis disparaître dans la foule avant les questions gênantes. Écolo. Écolo a choisi une stratégie plus rare, une stratégie propre aux armées affaiblies et démotivées, et il s'agit de la stratégie dite de la défense en profondeur. Au lieu de tenir une ligne de front solide, on développe plusieurs lignes de défense un peu floues pour ralentir l'ennemi et essayer d'affecter son moral. Pas de nucléaire, pas de nucléaire, on répète ça sans cesse et puis on dit le contraire et puis on parle d'autre chose et puis on se retire et puis on revient. Vos opposants ne savent plus trop quoi faire, ils sont perdus, vous êtes moins forts qu'eux, mais c'est votre chance. Exemple, la bataille de Koursk en 1943, lors de laquelle les soviétiques avaient placé quantité de lignes de défense faites de champs de mines, de tranchées et de fortifications. Les engagés. Les engagés, c'est très clair. Les engagés se servent de la stratégie de l'attrition. Une stratégie reposant sur la patience qui consiste à attendre que l'ennemi s'épuise en utilisant ses ressources et l'attaquer en profitant de conditions qui lui sont défavorables. C'est ce qu'ont permis les longues années d'opposition pendant que les partis de la Vivaldi s'entre-déchiraient. Les engagés n'avaient qu'à attendre. Exemple, 200 ans avant notre guerre, la seconde guerre punique menée par le général romain Maximus contre Hannibal. Maximus ne s'attaqua jamais directement à Hannibal, mais l'empêcha de s'approvisionner et sauva Rome. Défi, stratégie très très exotique du petit parti francophone, celle qui consiste à simuler sa propre faiblesse en la mettant en scène. C'est la stratégie de la tromperie dont parlait Sun Tzu dans l'art de la guerre. Exemple, la bataille de Midway en 42, lors de laquelle les Américains ont fait croire aux Japonais qu'ils avaient un problème d'approvisionnement en eau et que des porte-avions étaient en panne, alors que pas du tout. Bon, on espère pour des filles qu'il s'agit vraiment d'une stratégie, sinon ça va être compliqué pour eux. La NVA. La NVA fait campagne du côté francophone et est donc à présent un objet incongru, un parti nationaliste flamand mais francophone. C'est étrange, c'est bizarre. Si c'était un animal, ce serait un ornithorynque à la fois ovipare et mammifère. Si c'était un plat, ce serait un jambalaya, hein, qui mélange du poisson et de la viande. Sa stratégie est classique. Il s'agit de la stratégie millénaire de l'ennemi de mon ennemi et mon ami, affaiblir le MR afin de favoriser le PS avec qui des accords sont considérés comme plus simples. Connaissant le goût de Bart de Wever pour l'Antiquité, ce n'est pas étonnant, car un des plus beaux exemples de stratégie est l'alliance entre Athènes et la Perse durant la guerre de Corinthe. Les Athéniens et les Perses se détestent, tout les sépare, mais les Perses détestent encore plus Sparte, alors les Perses offrent des bateaux à Athènes pour affaiblir Sparte et gagner la guerre. À la semaine prochaine.
Waouh, bon, c'était